Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 173, et aujourd'hui je reçois Sarah Zerbib, avec qui je parle de plaisirologie.
Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Salut les ambitieuses, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je viens de passer l'après-midi à faire des cyanotypes. C'est la première fois que je expérimentais avec cette technique d'impression sur papier grâce aux rayons UV. Bref, c'est une vieille technique d'impression. Puis, on a fait ça dans le parc d'une bibliothèque. Fait que je suis comme super zen. J'ai travaillé avec des fleurs, avec des feuilles, avec la lumière du soleil. Puis, pour moi, c'est vraiment important d'intégrer des poses artistiques dans mon day-to-day, dans mon quotidien, parce que c'est les moments où je peux me recharger. Puis en plus, c'était dans un groupe, fait que je pouvais parler à des gens, fait que tu sais, je me sens pleine d'énergie, complètement rechargée. Et c'est intéressant que je prenne le micro là maintenant pour vous faire cette petite mise en contexte de l'entrevue que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que aujourd'hui, ben, le thème principal dont on va parler avec mon invité, c'est du plaisir et la place du plaisir, pas juste dans nos vies, mais dans aussi nos identités professionnelles, comment on évolue à travers le monde et comment on ressent le monde en général. Et moi, ça fait quand même assez, ça fait, je dirais, 3-4 ans que j'ai fait un travail très conscient autour de la réappropriation de mon plaisir, puis pas juste de mon plaisir. Tu sais, quand on parle de plaisir, on pense souvent au plaisir sexuel, mais c'est pas juste ça. C'est genre vraiment comme une présence à soi et à son corps que je sentais qui était de plus en plus étiolée, surtout après avoir donné naissance à ma fille, surtout après avoir investi tellement d'énergie à monter une entreprise, alors que je travaillais à temps plein. Bref, avec la pandémie et tout ça, pour moi, ça a été un travail hyper intentionnel, hyper conscient, de m'assurer que je revenais dans une phase de présence à moi, mais aussi de contact avec qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, le plaisir. Et donc aujourd'hui, on reçoit Sarah Zerbib, qui est plaisirologue justement, et j'ai trouvé ça absolument fantastique quand j'ai rencontré Sarah. On s'était rencontrés parce qu'on fait partie d'un groupe commun d'entrepreneurs dans un groupe de coaching. Et puis, lors de mon passage à Paris, on s'est rencontrés avec quelques autres personnes. On se connaissait du monde en ligne, mais là, on est allé bruncher, on a appris à se connaître un peu. Après ça, on a fait une soirée, une soirée de brainstorm autour, genre, de petites bouchées. Puis, j'en ai appris un peu plus sur ce que Sarah faisait et puis sur toute son histoire. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant et je savais que je voulais l'inviter sur le podcast pour qu'elle puisse partager avec vous son expertise, mais aussi sa vision autour du plaisir. Donc, qu'est-ce que c'est la plaisirologie? Qu'est-ce que ça fait un plaisirologue? Ça sonne bien, c'est un beau mot, je trouve. Et en même temps, il faut faire la différence avec d'autres mots comme la sexologie, hein, ou le métier de sexologue. Et Sarah, elle aime résumer ça en une phrase qui est « La sexualité est une compétence, le plaisir est un art et la plaisirologie invite à s'initier à cet art. » Donc, ce qu'elle propose avec son travail, Sarah Zerbib, c'est de pénétrer dans cet écrin érotique où le moindre souffle de plaisir est sublimé pour nous faire redécouvrir notre vie intime comme jamais on ne l'aurait imaginé. Et on va parler donc autant genre de cette connexion au corps, mais aussi qu'est-ce que ça veut dire « le plaisir est un art » Hein? Puis pourquoi l'art, la beauté, les sensations physiques sont si importantes, même quand on commence à réfléchir à notre entreprise. Puis avant que je vous laisse avec l'entrevue, ça mène vraiment bien à l'invitation que j'ai pour vous de venir à ma masterclass sur le luxe, hein, qui s'appelle Luxe Énergie, parce que le luxe, le plaisir, l'éveil des sens, l'abandon à l'expérience, c'est tous des concepts qui sont reliés et qui, quand on peut enfin s'ouvrir à une définition qui n'est pas nécessairement alourdie par un contexte capitaliste, patriarcal, exploitatif, peut nous ouvrir la porte à un autre degré d'intimité qu'on peut créer avec nos audiences, qu'on peut créer avec nos clients, qu'on peut créer avec nous-mêmes, même dans un contexte business, dans un contexte professionnel. Et c'est ça que je veux développer avec vous, parce que pour moi, le travail autour de ma conception du luxe, de mon expérience et de ma responsabilité de créer des expériences pour mes clients a été énormément nourri par cette reconnexion au sens, reconnexion au plaisir, reconnexion à la beauté qui, bien souvent, sont associés avec une expérience du luxe. Donc, si vous voulez vous inscrire, je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Vous pouvez aussi aller sur mtamarc.com/luxe pour vous inscrire à la masterclass qui va avoir lieu cette semaine. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec Sarah Zerbib et on va parler de plaisir. Salut Sarah, bienvenue sur l'ambition au féminin. Comment tu vas aujourd'hui?
Très bien, on profite des rayons de soleil à Paris, j'adore.
Oui, pluie, soleil, la grande tension météorologique.
Du moment.
Du moment. Je suis super contente de t'avoir sur le podcast. On s'est découvert il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai l'impression, puis je suis tombée en amour avec ton univers, donc j'ai hâte d'en parler avec toi parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et j'ai toujours une petite question brise-glace pour mes invités, puis celle que je voulais avoir avec toi parce que j'ai vu le mot apparaître dans ton site web en faisant mes petites recherches, c'est « Comment tu définis et vis l'ambition? »
Waouh! Oui, effectivement, je pense pouvoir me définir comme une personne ambitieuse. Et je définirais, en tout cas comment je le ressens, l'ambition, c'est que je me sens appelée à faire des choses. Et je sens que c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de moi. C'est pas forcément un élément très précis, mais je sens que c'est une sorte d'énergie, de mouvement qui, tu vois, qui un peu me tire vers l'avant et qui me donne envie d'y aller. Bon, des fois, ça fait peur aussi parce qu'on peut se dire mon ambition, elle est trop grande ou on va me prendre pour une folle. Enfin, des fois, il y a un peu de l'ambivalence autour de l'idée de l'ambition, surtout peut-être en tant que femme. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait à la fois rêver, qui peut me faire peur, qui me fait envie. Et je me dis, ouais, j'ai envie que ma vie serve aussi à ça, à accomplir des choses. Et parfois, on en vient à accomplir des choses dans sa vie qu'on n'imaginait même pas. Mmh. Et je trouve qu'il y a aussi de la beauté à observer des fois ces moments où on ne s'imaginait pas arriver à tel arrêt ou destination, ou arrêt dans le sens où ça fait partie d'un voyage, et on se dit ah ouais, en fait c'est pas mal aussi là.
Génial. Ce que j'entends, puis tu n'as pas utilisé ce terme là mais il y a comme une force créative, il y a un courage
dans, c'est vrai,
dans
c'est
ta
vrai
définition de l'ambition.
Effectivement, il y a un peu une phrase que je me suis dit à des moments où j'hésitais, tu vois, à y aller. Et la phrase que je me suis dit à ces croisées des chemins, c'est « si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais ». Donc, c'est un peu le coup de pied au derrière, mais dans le sens où je sais que j'ai envie d'y aller, mais tu vois, t'as la peur de « est-ce que je vais y arriver ?» et « qu'est-ce que les autres vont penser ?» et tout ça. Et à un moment, je me dis « mais c'est juste moi avec moi-même et Et des fois, je me dis, ah, quand j'aurai 80 ans, que je serai une mamie, je serai trop contente de raconter ça. Donc voilà.
Génial, merci. Oui, puis j'avais trouvé ce terme-là d'ambitieuse. Puis encore une fois, c'est un terme que je pense que les femmes se réapproprient de plus en plus au fil des ans. Puis ça m'intéresse beaucoup d'entendre ces définitions-là. À côté de autre chose que j'ai trouvé super intéressant, qui est ta définition de la plaisirologie. Puis c'est la première fois que je l'entends, du moins. Que j'entends ce néologisme, à moins que ce soit un mot qui existait déjà. Je ne sais pas si c'est quelque chose que toi, tu t'es approprié, mais
Je pourrais te dire.
ouais, je serais vraiment curieuse de savoir ça. Mais la façon dont tu l'expliques dans ton site, qui est vraiment clair selon moi, et en même temps qui a besoin d'explication, je crois, c'est la case manquante entre sexologie et psychologie. Donc, oui, comment est venu ce terme et qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce que ça veut dire exactement la plaisirologie?
Alors, pour être tout à fait honnête, c'est pas un mot qui vient de moi, mais ça vient d'une ex-amie, puisqu'on s'est séparés amicalement. On était dans un coaching business dans lequel elle m'avait introduite, puisque moi, à l'époque, j'étais pas du tout coach, j'étais pas du tout dans cet univers-là, et je me méfiais énormément de cet univers-là. Finalement, j'ai pris connaissance de ces coachs et ça a résonné à l'époque avec moi. Et ça répondait aussi à finalement quelque chose que je cherchais en termes de redesign de mon activité, puisque je venais de l'institutionnel. J'étais psychologue à l'époque dans les hôpitaux, enfin dans des centres publics. Donc vraiment une logique très très différente de quelqu'un qui bosse en indépendante. Je m'étais installée en fin 2019, donc vraiment quelques mois avant le Covid. Et l'année 2020, en termes de psychologie, ça a été très très lourd. J'ai frôlé le burn-out et je me suis dit, je veux pas travailler comme ça. Donc je suis ce coaching business et je sais que je veux commencer à travailler sur autre chose. Je veux travailler différemment. Un des sujets qui me passionne et qui m'a beaucoup animée sur plusieurs niveaux, c'est le corps. Et donc je faisais de la shooting je faisais des shootings boudoirs, je continue de faire des shootings boudoirs, j'adore tout ce qui est de l'ordre de l'esthète, la sensorialité. J'étais blogueuse beauté pendant une dizaine d'années et je renoue avec cette passion récemment. Et en fait cette amie, elle me dit, toi, ce que tu sais faire, Sarah, c'est l'art du plaisir. Donc en fait c'est de la plaisirologie. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est trop ça. Le mot, il a fait ding dans ma tête. Et je me suis dit, mais oui, totalement. Et donc, je me suis approprié le mot, ce qui n'a pas été simple. Parce que quand j'ai commencé à dire que j'étais plaisirologue, que j'avais lancé le concept de plaisirologie, on y associait toujours le sexe. Et je ne voulais pas, à l'époque, être labellisée avec juste cette case-là ou que des personnes libidineuses, comme on en voit beaucoup quand tu es une femme et qui parle de sexe sur les réseaux, tu te retrouves avec des messages, des réflexions, etc. Donc j'étais un peu timide à l'époque, quand j'ai lancé vraiment le concept en mars 2021, donc il y a 3 ans révolus. J'assumais pas vraiment cette identité. Et en même temps, si je reprends juste un aspect de mon histoire avec le corps, j'avais fait un shooting photo en 2016, un de mes premiers professionnels, où le photographe m'avait dit, Sarah, avec toi, on peut soit jouer sur la carte femme-enfant, parce que tu as un visage assez rond, assez innocent, etc. Mais en même temps, on peut totalement jouer la carte de l'érotique. Et quand il m'avait dit ça, je le sais, mais c'était une identité que j'avais encore assez peu, explorer. Donc, tu vois, il y avait un peu plein de choses qui commençaient à se connecter. Et en fait, c'est en janvier 2022, j'ai été invitée à la télé pour parler de dermatome, mais c'était en lien avec mon blog beauté. Et je me suis challenge, Sarah, place le mot de plaisirologue à la télé. Je me suis dit, c'est l'engagement pour que tu noues cette identité avec ce concept-là qui fait partie de toi, qui est ton essence. Et donc je l'ai placé et à partir de là, je me suis forcée, dans le bon sens du terme, à vraiment l'intégrer dans une identité, à corriger les gens qui n'associaient ça que à la sexualité. Effectivement, la manière dont je communique autour de la plaisirologie sur les réseaux sociaux, c'est d'abord par la vie intime, Mais j'aime à dire, peu importe l'angle par lequel on rentre dans la plaisirologie, c'est après un art de vivre et comment je le définis. Donc il y a cette définition que je donne sur le site, mais j'aime bien maintenant aussi dire que la sexualité est une compétence. Donc en soi, on peut apprendre des pratiques, mais le plaisir est un art et la plaisirologie accompagne à cet art-là. Parce qu'on a beau avoir toutes les techniques, si le contexte dans lequel on fait ces techniques, l'intention avec laquelle on fait ces techniques, tout ça n'est pas travaillé, que ça soit en termes de trauma, de ceci, de cela, ben en fait, on va pas ressentir la richesse du plaisir de ces expériences charnelles, sensorielles, corporelles, etc.
J'adore la distinction que tu fais entre quelque chose qui peut être peut-être perçu comme plus crédible, entre guillemets, bon, les sciences, psychologie, sexologie, qui ont la terminologie, hein, en logie, et aussi le côté plus artistique, plus incarné, plus peut-être même intuitif jusqu'à un certain point. Certaines personnes vont dire comme dans l'aspect plus féminin, entre guillemets, même si j'aime pas ces dichotomies nécessairement féminin et masculin, mais j'aime beaucoup cet aspect de l'art et aussi d'ouvrir que le plaisir, c'est charnel, mais pas nécessairement sexuel. Je pense que c'est une
Exactement.
grosse distinction à faire qui sûrement tu dois faire souvent, j'imagine.
Énormément. C'est vrai que quand j'évolue dans des lieux ou des soirées, tu vois, donc des fois où il n'y a rien à voir avec mon métier, mais que forcément les gens ils te demandent ce que tu fais dans la vie, et dès lors que je parle de ça, bah, limite j'ai une file qui se forme ou des groupes qui se forment autour de moi avec plein de questions parce que. Forcément, tout ce qui touche à l'intime, donc au corps, bah, ça anime. On se dit, bah, j'ai quelqu'un sous la main qui pourrait peut-être répondre à une question, donc je vais oser lui poser la question. Et effectivement, tu as vu juste avec cette idée de création, d'aspect créatif, artistique. En fait, c'est l'artistique a beaucoup ponctué mon parcours. En tant que loisir, des fois même au niveau des études. Et en fait, j'ai toujours cette photo de moi à 3-4 ans dans l'appartement où j'ai grandi en partie avec mes parents et où je leur tends. Donc, il y a une photo de moi, de la petite Sarah avec une assiette où j'ai fait une présentation avec 3-4 bricoles, donc un cake, des petits bonbons, des olives et tout. Et j'avais tout décoré, j'avais tout découpé d'une certaine manière et j'étais trop fière de mon apéritif. Et pour moi, c'est là où la plaisirologie a commencé, où il y a la petite Sarah qui s'est appropriée 3-4 bricoles dans la cuisine, qui a fait à sa sauce et qui donne à ses parents, mais regardez comment c'est trop beau, vous allez vous régaler. Bah, j'ai l'impression que c'est cette petite Sarah qui aujourd'hui, bah, tu vois, elle s'exprime avec ses codes d'adulte, mais à travers l'univers qu'elle a créé.
C'est très très beau, puis ça me touche comme histoire, parce que j'ai l'impression aussi, bon, j'ai l'impression que étant moi aussi un enfant qui était très créatif et très proche de ses sens, il y a eu une j'ai grandi éventuellement à comprendre que il fallait pas nécessairement leur faire confiance ou que les sens des fois se mettaient dans le chemin de notre ambition justement, qu'il fallait des fois être plus structuré, plus cognitif, plus cérébral dans notre façon de fonctionner, notamment au niveau professionnel. Puis personnellement, ça a créé beaucoup de... Ben bref, y compris le fait d'être femme puis d'être née dans une société où il y a beaucoup d'hostilité envers les femmes, mais... Il y a eu une déconnexion dans ma vie à moi avec le plaisir des sens que j'ai maintenu à travers une recherche plus intellectuelle comme étudier l'histoire de l'art, étudier la littérature, continuer à apprécier au niveau hobby certains arts, mais aussi plus je devenais la professionnelle dans un milieu corporatif, whatever, plus on dirait qu'il y avait de moins en moins de place pour ça. Toi, comment ça a été ta relation avec le plaisir à travers les années, puis est-ce qu'il y a eu comme justement une réappropriation, ou pour toi ça a quand même toujours été assez naturel et assez présent?
Je pense que ça a été naturel au début, un peu comme toi. Et puis après, il y a eu une vraie déconnexion, une vraie coupure. Je dirais que ça a commencé quand j'ai connu un peu de harcèlement scolaire, de choses un peu difficiles à l'école, parce que bah, j'étais un peu la fille un petit peu roux, un petit peu ronde, un peu grosse. Donc j'avais connu des moqueries, on se moquait de mon nom de famille, donc un peu d'antisémitisme. On m'a donc j'ai cherché à me protéger, donc je me suis créé ce monde créatif est devenu plus un monde intérieur, donc je le partageais plus du tout. Je suis devenue un vrai garçon manqué, c'est-à-dire que je suis passée d'une petite fille qui adorait mettre des robes qui tournent à des pantalons, des pulls, et je ne jouais qu'avec des garçons. Alors, j'ai jamais trop aimé les jeux, les poupées, tout ça, donc j'étais plutôt dans les jeux, la balle aux prisonniers, enfin bon, plus des jeux avec les garçons. Et puis voilà, je l'ai gardé intérieurement. Et puis bon, il y avait des choses un peu difficiles aussi au niveau familial, donc je pense que je me suis réfugiée plutôt dans ce monde-là à l'intérieur. Et puis ça vraiment, il y a vraiment une cassure. Il y a vraiment une cassure au moment de l'adolescence où mon corps a commencé à changer. Donc où bah, ce corps d'enfant devenait pubère. Déjà que j'étais pas très à l'aise dans mon corps puisque j'étais un peu grosse, enfin grosse. Voilà, à l'époque je rentrais pas dans les standards ni maintenant non plus, mais voilà. J'étais très mal avec mon image. Je percevais l'hypersexualisation déjà des femmes, et il y avait plein de choses qui me donnaient envie de rejeter ce qui venait du corps, donc les sens. Donc je me suis beaucoup réfugiée dans la peinture, l'écriture et la culture en général. Donc c'est pour ça que j'ai étudié un semestre d'histoire de l'art et ça m'a trop bien à la fac. Et j'ai commencé à renouer avec mes sens quand j'ai voulu apaiser ma relation à la nourriture, parce que j'ai connu l'hyperphagie, donc un trouble du comportement alimentaire associé à leur trigger warning. J'ai pas de problème à en parler, mais si les personnes qui ont du mal avec les agressions sexuelles peut-être peuvent couper là, avec un vécu incestuel. Donc ça plus ça a fait que je protégeais mon corps, donc il y avait des couches de kilos, de kilos, de kilos finalement pour le rendre moins sensible et moins désirable. Et en fait, la nourriture venait à la fois apaiser quelque chose, donc j'avais des crises d'hyperphagie sur beaucoup d'aliments sucrés, donc le côté doux, doudou. Et quand j'ai commencé à vouloir apaiser ça, et en fait, une photo d'identité a été un déclic où je me suis dit non, je peux pas ressembler à ça, c'est pas la Sarah que je sais exister à l'intérieur. Le fait de ne plus sentir les sensations de faim, enfin, je faisais plus du tout confiance à mon corps, et en commençant ce cheminement avec l'alimentation, ça a été ma porte de redécouverte de mon corps. Donc il y a eu ça, et puis en parallèle le blogging, notamment beauté, qui au bout d'un moment m'a amené à me filmer, m'a amené à prendre des photos. Et le fait d'être en lien et d'être un peu forcée à regarder mon image, à voir aussi l'évolution de mon image, a fait que j'ai commencé à explorer cette relation au plaisir, à mes sens et donc à mon identité. Donc je suis passée par différentes phases jusqu'à arriver à une phase, je dirais, qui a commencé à vraiment se dessiner il y a 5-6 ans, qui se rapproche beaucoup plus de la Sarah que tu vois aujourd'hui, donc en termes d'image de soi, de relation à son corps, d'apparence, où je me sens bien, tu vois, je sens plus de tension, je sens plus que j'ai besoin d'en faire trop pour me sentir femme. Alors pour des personnes, peut-être mon image c'est trop pour elles, mais par rapport à comment je me maquillais il y a 10 ans, c'est 3 fois moins de maquillage. Enfin, donc vraiment, il y a eu des phases, donc l'alimentation, le blogging, et la dernière case qui m'a énormément aidée, c'est la danse. et notamment la danse latine où tu danses en couple et donc tu te fais toucher. Mais quand tu danses en couple, tu as un vrai cadre, les mains sont censées aller à certains endroits. Mais en fait, ça a été aussi une très grande étape pour me réapproprier mon corps, me sentir en sécurité avec mon corps quand quelqu'un le touchait. Et 15 ans plus tard, je fais toujours de la danse et ça fait partie de moi. Et j'imagine pas ma vie sans la danse parce que au-delà de la relation à mon corps, c'est venu affiner énormément de choses en termes de sensorialité. Et il y a beaucoup de parallèles que je fais avec mes clientes entre des choses que j'ai captées à la danse, mais qui s'appliquent aussi à la vie intime. Et pour moi, c'est un vrai terrain de jeu, quoi. Et je m'en inspire beaucoup de cette expérience personnelle.
Wow, merci pour tout ça. C'est vraiment riche et je me reconnais dans plusieurs parties aussi de ton histoire, dont la déconnexion initiale en tant que femme dans justement ces environnements où on se sent pas en sécurité. Est-ce que pour toi, étudier la psycho puis la sexo, c'est venu en parallèle ou est-ce pourquoi l'avoir rendu tellement central dans ton éducation, puis est-ce que c'était quelque chose que tu voulais faire plus à temps plein, mais sous une forme plus, disons, crédibilisée par rapport à d'autres voies?
Alors, c'est assez drôle cette question parce que je n'étais pas du tout destinée à faire ces études. En fait, moi, j'étais d'abord attirée par le côté archéologie, donc bon, comme beaucoup d'enfants, mais j'avais une vraie soif d'apprendre, d'histoire, et je trouvais ça beau, en fait, de trouver des trésors dans la terre, tu vois. Et après, j'ai vraiment voulu aller en design, donc vraiment le côté très créatif. Et en fait, donc j'avais appliqué, j'avais envoyé une candidature dans une école bien spécifique à Toulouse à l'époque, puisqu'on était dans le sud avec ma famille. Et exceptionnellement, cette année, ils ont accepté deux redoublants et j'étais deuxième sur liste d'attente.
Ah.
Le truc improbable. Donc, forcément très déçue et je finis non pas dans une école professionnelle pour le design, mais dans un lycée général, donc dans un cursus général, mais avec une option art plastique. Donc, un peu dans un cursus finalement assez littéraire dans ma première année de lycée. Et avec le côté art plastique où je bricolais pas mal. Et en fait, comme je n'avais pas été acceptée dans cette école, je ne savais plus du tout quoi faire de ma vie. J'avais 15 ans, j'étais là, mais mon plan A n'a pas marché. Quel est le plan B, quoi? Je sais pas. Donc, je suis passée par plein de phases où je me suis demandé, bon, est-ce que j'aime écrire? Est-ce que je vais faire du journalisme? Mais j'avais pas envie de faire des prépas. Parce qu'en fait, j'ai commencé à être en échec scolaire au lycée, je trouvais pas ma place, je me sentais pas bien, c'était très compliqué familial, au niveau familial, donc c'était un peu le pic de mon mal-être, de mes TCA, de ce contexte incestuel, etc. Et bon, bah, comme entre la seconde et la première, tu dois faire un choix de est-ce que tu vas en littéraire, en scientifique ou en économique. Bah, j'ai un peu suivi l'adage qui dit bon bah va en scientifique, ça t'ouvre plus de portes. Comme j'étais plus dans une seconde littéraire, j'avais une très bonne prof de français qui m'a fait renouer avec les cours de français. Alors elle était très dure mais très juste, elle m'a beaucoup encouragée. C'était vraiment une prof un peu à l'ancienne mais que j'ai beaucoup aimée. Et après, je suis tombée sur des profs en première beaucoup plus scientifiques et j'avais plus trop le niveau. Finalement, on avait moins fait de choses dans le programme. Donc, j'étais un peu à la traîne. Ça a commencé à être compliqué. J'avais plus trop envie de m'investir en cours. Je trouvais pas ma place. J'avais à nouveau une très bonne prof de français qui, une fois à la fin du cours, m'a dit, elle voulait lire ma copie devant tout le monde. Je lui ai fait non. Je voulais pas que mes camarades sachent ce que je pensais. Et elle m'a juste pris en fin de cours en me disant, ça va, vous devriez penser à écrire, vous avez des choses à dire. Donc ça m'a accompagnée depuis et je la remercie. Et en fait, en dernière année de lycée, quand j'ai fait mes cours de philo, on parlait de psychanalyse, de psychologie, et je me suis dit, bah, ça me plaît. Je pense que je pourrais m'épanouir là-dedans. Donc je suis partie en psycho. Et l'aspect plus intime sexo, Je pense que je m'y suis intéressée très très jeune, je pense dès toute petite, avec mes premiers comportements masturbatoires sans que je m'en rende compte. Bref, l'exploration du corps d'un enfant. Et puis après, plus tard, donc à cette période lycée, il y avait un sous-sol dans la maison de mes parents, il y avait une grande bibliothèque. Je suis tombée sur certains livres. Donc une encyclopédie, donc tout ce qu'il y a de plus médical qui parlait de l'appareil reproducteur, mais avec des photos des années, c'était à des années 70, donc il n'y avait pas de censure, on voyait les corps masculins, féminins, donc moi je voyais les zones pubiennes pour la première fois à l'âge adulte et tout ça. Je suis tombée sur des BD aussi érotiques, bon un peu osées pour une ado de 15-16 ans, mais qui m'ont interrogée parce que je me suis dit, oh là, c'est sexiste, je suis pas d'accord avec ça. Alors j'avais jamais rien fait, mais je me suis dit, non, ça va pas ce que je suis en train de lire. Et puis après j'ai commencé, donc comme ma prof de français m'avait invitée à écrire et que moi j'étais l'ado qui pensait qu'elle allait jamais avoir de petits copains, qu'elle rien allait aller dans sa vie sentimentale, j'ai commencé à écrire des fanfictions sentimentales, empreintes d'érotisme et donc mine de rien ça a commencé à faire partie de mon environnement. Je lisais ces fictions sur Internet et finalement, voilà, je suis allée en psychologie. Alors on me dit pourquoi t'as pas fait sexologie, mais en fait, finalement, la sexologie c'est pas tant ce que je travaille avec mes clientes aujourd'hui. C'est vraiment plus la relation au corps, au sens, au plaisir, à créer un espace safe pour cette exploration. Donc bien sûr, je me suis formée, j'ai fait des choses complémentaires en termes de sexologie, mais je veux pas être sexologue. Donc, voilà la différence.
Ouais, puis je pense que c'est une différence vraiment essentielle. Tu as utilisé le terme intimité à plusieurs reprises, puis je pense que encore une fois, on fait beaucoup de raccourcis entre le travail dans le coaching en intimité ou ce genre de travail-là et le bien-être sexuel et la sexologie, même si ils vont probablement se retoucher sur certains domaines. L'intimité, c'est un peu plus que tu... De la façon que je le comprends, du moins, puis tu me diras si c'est comme ça que tu le vois, mais c'est cette sécurité que tu crées avec toi-même, avec tes sens, avec ton corps, pour ensuite créer d'autres espaces sécuritaires à expérimenter avec les autres.
Exactement, exactement. C'est vrai que je le travaille tout le temps avec mes clientes parce que, alors c'est vrai qu'en France, je sais pas, je vais parler de la France parce que je sais pas comment ça se passe au Canada ou en Amérique du Nord. Déjà, la sexologie, c'est encore très tabou et le fait, imaginer quelqu'un qui te coach dans ton intimité, c'est genre, mais ça n'existe pas. Enfin, une coach en intimité, ça n'existe pas en France. Donc déjà, on part de là. Et c'est vrai que souvent, la porte d'entrée de bah, je cherche quelqu'un, c'est parce que j'ai un problème. Je ressens plus assez de plaisir, j'ai plus de désir, j'ai plus ceci, j'ai pas cela. Et il y a toujours une phrase, et tu me l'as ôtée de la bouche, c'est le fait de devenir d'abord intime avec soi pour pouvoir inviter l'autre à être intime aussi avec soi. Et je pense qu'il y a un énorme travail à faire chez les femmes, et bon, chez les hommes aussi, mais là je m'intéresse aux femmes, de créer de l'intimité avec elles-mêmes, que ce soit leur corps, leur sens, leur image, mais à toutes les dimensions, tous les étages, parce que c'est ça qui permet de se sentir en confiance avec soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de complexe. Souvent, je dis, on arrive à un état où on est suffisamment en confiance, donc ce qui permet d'avancer. Et donc de créer un espace sécuritaire où on va pouvoir se laisser aller aux sensations et donc au plaisir.
Ouais, puis ça mène à une question que j'avais justement parce que je pense que aussi, comment j'entends beaucoup de conversations autour du plaisir, c'est très lié au confort. Puis je pense que les gens font l'association entre les deux, mais qu'il y a des nuances probablement à faire entre chercher ce qui est confortable versus chercher ce qui procure du plaisir. Même au niveau entrepreneurial, tu sais, c'est vraiment intéressant parce que moi je coach plus au niveau professionnel puis au niveau entrepreneurial, mais le plaisir a une énorme place dans ce qu'on s'autorise aussi à faire, même au niveau professionnel, dans les identités qu'on s'autorise à avoir. Et le fait d'avoir cette dichotomie où il y a d'un côté le confort et de l'autre côté l'inconfort, d'un côté le plaisir, d'un côté le non-plaisir, ça fait que souvent je vais voir des personnes qui vont choisir des avenues qui sont pas nécessairement... ils vont peut-être choisir une avenue qui va sembler confortable pour le moment, mais qui ultimement va limiter les accès au plaisir possible qu'elles peuvent avoir. Bref, là, je veux pas trop compliquer la question, mais je me demandais comment, si toi, c'est quelque chose que tu remarques aussi entre ces deux concepts-là, ou comment tu le vois, là, cette question-là du confort versus du plaisir?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. On est dans une vraie dichotomie, alors que pour moi... on peut ressentir du plaisir alors qu'on est dans une posture inconfortable. Mmh. Je veux dire, des fois, tu peux être amené, je sais pas, je prends l'exemple de parler en public, ça te stresse, mais t'es tellement contente de parler d'un sujet qui t'anime que tu vas prendre méga plaisir, mais peut-être t'as les mains moites, t'as le cœur qui bat à fond, et l'un n'empêche pas l'autre. Et je pense qu'on est trop dans l'exclusion de c'est ça ou ça, plaisir versus déplaisir, alors que c'est tout est lié, tu vois. C'est comme si je prends un exemple dans la sexualité, dans le côté charnel, entre ce qui fait du bien et ce qui fait mal, des fois il y a pas grand chose, tu vois, en termes d'intensité ou de position ou de durée. Parfois on peut vite basculer dans l'un l'autre, mais ça veut pas dire que quand on bascule il y a plus du tout de plaisir. Il peut y avoir une autre forme de plaisir auquel on s'attendait pas. Mmh. Et je pense que le plaisir, il est aussi constitutif de la découverte. Je veux dire, il y a pas longtemps, j'ai mangé pour la première fois du caviar. Moi, j'aime pas du tout les œufs de poisson. C'est vraiment pas du tout mon délire. Et je voulais quand même faire honneur à ce super repas. Et donc, j'ai pris genre 2 grains. J'étais là, oh là là, la honte et tout. Et donc, j'essaye de voir, moi, est-ce que ça a le goût de d'iode, de poisson. Et en fait, ça a un goût de noisette. Et je me suis dit, waouh, la texture et tout. Et je pense que le plaisir est aussi dans cet émerveillement de s'autoriser à découvrir des nouvelles choses qui peuvent nous sembler en dehors de notre zone de confort. Mais même si j'aime pas, est-ce que j'ai quand même pris plaisir à la découverte? Il y a des choses finalement on va pas aimer, mais est-ce que le processus d'exploration m'a amusée, m'a permis d'apprendre quelque chose, m'a fait avancer dans la connaissance que j'ai de moi?
Ouais, puis ça mène à ce qu'on disait tantôt sur la créativité puis l'espace créatif puis la plaisirologie comme art, parce que même dans n'importe quelle pratique artistique, on a les moments où, bon, j'ai pas envie de pratiquer mes gammes ou j'ai pas envie de faire des tests de couleurs ou peu importe, mais que ultimement, quand on regarde le chemin vers la maîtrise ou ce que ça nous procure dans la grande expérience, on a beaucoup plus de nuances et de complexité dans ce qu'on vit. Puis j'adore cette notion d'émerveillement et d'enchantement, parce qu'il y a quelque chose aussi dans suspendre le jugement pour pouvoir s'autoriser le plaisir, ou pour pouvoir s'autoriser des expériences où le plaisir serait possible.
J'aime bien l'expression, alors c'est plus en anglais que je trouve qu'elle sonne, elle sonne bien, mais bon, elle peut sonner bien en français, c'est « the art of noticing », donc l'art de repérer, et c'est d'aller, et c'est ça aussi qui me plaît dans la plaisirologie, c'est d'aller chercher ce qui est beau, tu vois. Peut-être c'est pas beau de prime abord, tu vois, ça peut être un bourrelet, une vergeture, si on parle du corps ou autre. Et en fait, peut-être selon cette lumière, avec tel tissu qu'il dévoile, avec peut-être une huile que j'ai appliquée sur mon corps, etc. Ben en fait, je vais me laisser émouvoir et je me dis, en fait, si, c'est beau. Il y a de la beauté dans cette partie peut-être de mon corps que j'aime pas ou qui me met peut-être pas à l'aise parce que voilà, ça me rappelle telle histoire ou telle partie de ma vie. Mais en fait, je peux voir sa beauté.
Mmh. Mmh. Ouais, la beauté. J'avais enregistré un épisode qui disait est-ce que la beauté a de la place dans nos entreprises? Puis
Grande question.
grande question, mais je pense qu'on est probablement aligné sur la direction dans laquelle on amènerait ça. C'est dommage qu'on la considère tellement accessoire parfois dans nos vies ou qu'on la minimise dans ce que ça peut avoir comme effet transformateur.
J'ai appris quelque chose, je crois que c'était l'an dernier, et en fait, ça a fait tellement de sens. Pourquoi le côté beau ou esthétique, en parlant de l'apparence, était considéré comme superficiel. Et ça vient du siècle des Lumières, où il y a eu un shift total dans la manière de se présenter, parce que ce qui était important, c'était la pensée, la lumière dans les pensées. Et finalement, ça a amené une sorte d'austérité vestimentaire pour mettre en avant la pensée. Et quelqu'un qui aurait voulu exprimer des choses d'elle ou de lui à travers son apparence, bah, ça a commencé à être dévalorisé à cette époque, alors qu'il y a énormément de cultures, même dans l'Antiquité, où il y avait des rituels esthétiques, donc qui touchaient le corps, l'apparence, qui étaient considérés comme étant une élévation de l'âme. Et je me dis, waouh, enfin, tout fait sens, tout fait sens.
J'en ai des frissons. Puis aussi, j'aime... En tout cas, j'adore l'univers que tu as créé, le fait d'avoir comme justement ce blog beauté, puis d'avoir ce côté... En plus, tu as appelé ton entreprise Âme Fauve, puis pour quelqu'un qui a étudié en histoire de l'art, les fauves, c'était un mouvement que j'aimais beaucoup, parce qu'il y avait cette...
Ah, je suis pas au courant!
Mais bref, tu as regardé les fauvistes,
qui
ils étaient, là,
je pense. Ah oui, les fauvistes!
Ils ont... Ils ont cette relation aussi avec la couleur et avec l'intensité de la couleur qui est très forte pour les sens, justement. Mais bref, ça, c'est comme on diverge dans un autre, dans un autre sujet. Quand tu travailles avec tes clients, genre parce que tu travailles avec des femmes en priorité, c'est quoi la première étape pour toi quand tu vois que... Ben, premièrement, disons, c'est quoi l'étape où elles déterminent qu'elles ont besoin de travailler leur relation au plaisir? T'sais, qu'est-ce que tu as identifié comme étant ces points tournants dans leur vie? Et ouais, voilà.
C'est qu'en général... Alors, il y a un peu trois grande catégorie de personnes qui viennent me voir spontanément ou après avoir vu mes posts sur les réseaux ou ailleurs. Il y a les personnes qui ne ressentent pas ou plus ou n'ont jamais ressenti de plaisir intime et veulent un peu absolument arriver à l'orgasme. Donc, c'est encore dans la sexualité de performance, hein, comme je l'appelle. Mais se disent un peu, bah, je passe à côté de sans doute quelque chose de sympa et j'aimerais bien y arriver. Donc après, c'est quoi, déconstruire cette partie de la performance pour vraiment aller à la rencontre de son plaisir. Il y a des et donc, c'est assez intriqué avec sa relation au corps. Donc, il y a beaucoup de choses autour du contrôle, le fait de se passer en dernière, de plutôt penser aux autres, d'avoir une vie très cadrée, dans les clous, tu vois, l'avenue, comme tu parlais, qui semble confortable, mais finalement, bah, est-ce que je me suis vraiment écoutée? Est-ce que j'ai été fidèle à moi-même? Est-ce que je me suis laissé de l'espace pour exister, m'exprimer, etc. Il y a des personnes qui viennent... Il y a une catégorie de personnes qui viennent, notamment des personnes assez jeunes, donc aux alentours de 25 ans, donc assez jeunes, qui se posent pas mal de questions, que ça soit en termes de « est-ce que je suis normale ?» ou alors « j'ai envie de, entre guillemets, de poser des bases, des bonnes fondations pour ma vie intime et j'ai pas envie de le faire seule ». Et l'univers de Sarah m'a parlé, et donc je vais faire appel à Sarah, et il y a une troisième catégorie de personnes qui ont tendance à me voir, et là plutôt viennent en couple, même s'il y a quand même un sujet plus sur du côté de la femme, c'est en postpartum, donc aux 2-3 ans de l'enfant, que ce soit le premier ou le second. Une fois que vraiment la partie bébé a commencé à se calmer et que bah, le couple, papa-maman se disent, bon, bah, se dit, ok, là on s'est familiarisé avec notre identité de papa-maman, mais l'homme et la femme, ils sont où? On s'est éloigné, on se retrouve plus. Il y a des maris, entre guillemets, frustrés, qui ont envie de s'approcher de leur femme, mais voilà, qui savent plus s'y prendre, la femme en fonction de comment elle a vécu l'accouchement, quelle a été et quelle est la relation à son corps, à son plaisir, va plus ou moins ouvrir ou pas la porte. Donc je dirais que c'est un peu les états de départ que je rencontre. Donc je dirais que la première étape, c'est vraiment sortir du jugement et de la culpabilité et créer un premier soulagement. Donc je dirais que c'est on dépose l'armure, on dépose les bagages et on commence à souffler, on commence à respirer. Je dirais que c'est vraiment les premières étapes.
Fait que c'est ça, autant quelqu'un qui est investi déjà dans une relation que quelqu'un qui veut créer un peu plus de cette intimité avec,
J'ai les deux.
avec
J'ai
soi-même.
vraiment les deux.
Ouais. Puis, ce que je trouve bien aussi, c'est que j'imagine que ces personnes-là, elles peuvent ensuite voir les effets de ce travail sur leur façon aussi de être parents ou de être avec d'autres collègues. Tu sais, dans le sens, la relation qu'on travaille avec notre propre plaisir a aussi un effet sur les autres relations qu'on entretient avec l'autre.
Totalement. Par exemple, là, j'ai fini avec une cliente. À la base, elle venait parce que elle pensait qu'elle ne saurait jamais orgasmer. Et elle m'a dit quelque chose de très beau aussi aujourd'hui, où elle m'a dit, sans vous, bon, elle me vouvoie, elle garde le vouvoiement, mais dit, sans vous, Sarah, j'aurais jamais non plus appris à communiquer. Donc, en fait, la communication pour le plaisir est super importante sur plein de niveaux, que ce soit avec soi-même, avec l'autre. Et elle qui venait à la base pour un problème de je sais pas orgasmer, on est venu travailler beaucoup plus en nuance dans les relations, dans prendre sa place, se sentir en sécurité avec son corps comme je l'exprimais, l'explorer, découvrir aussi son ce que moi j'ai créé, donc des langages érotiques, donc son langage érotique, qui aujourd'hui l'a fait naviguer plus sereinement dans sa vie intime. Mais là, on touche le sujet, par exemple, des relations amicales, qui sont aussi un vrai sujet, et où bah, ces concepts que je travaille s'actualisent aussi dans d'autres domaines de vie, enfin, dans d'autres secteurs de nos vies.
Y a tellement de choses que j'aimerais approfondir avec toi, notamment le lien entre plaisir-performance, parce que dans mon historique personnel, ça a été vraiment ça la grande déconstruction, c'était de voir que ma vie n'est pas nécessairement au service de la performance, mais aussi elle peut être dans ce plaisir sans sens, entre guillemets, dans le sens, j'utilise le mot sens tellement de fois, mais un plaisir qui n'a pas d'utilité autre que pour moi-même. Puis j'avais lu un livre, je me rappelle plus si c'était dans Pussy de Mama Gina, mais où elle disait que il y a tellement de terminaisons nerveuses dans les organes génitaux féminins que c'est un des plus beaux cadeaux qui sont faits à la femme. Et de se le réapproprier, c'est aussi réintégrer la beauté et l'abondance que le monde a à nous offrir. Puis je trouvais qu'il y avait vraiment une beauté dans dans ce lien entre notre corps, le plaisir, le monde et tout ce qui nous entoure. C'est vraiment un côté très connecteur de cette habileté au plaisir.
Même au-delà des appareils génitaux, personnellement, je suis fascinée par l'organe de la peau. Et la peau, c'est vraiment cette frontière entre ce qui est à l'intérieur de mon corps et ce qui est à l'extérieur de mon corps. Et ce qui me fascine, tu vois, alors on parle des terminaisons du clitoris, mais sur chaque bout de doigt, il y en a 2000. Et je me dis, mais le nombre de connexions, de possibilités. Et finalement, quand on était bébé, on a appris le monde avec nos sens. Et par exemple, juste avec le bout des doigts, on touche quelque chose. En fermant les yeux, on sait si c'est chaud, si c'est froid, quelle est la matière dans laquelle c'est fait. Donc, on a une. Enfin, moi, ça me fait exploser mon cerveau à chaque fois. Je me dis, on a un répertoire, une connaissance au bout des doigts, une expérience à aller chercher, et on s'en prive, quoi. Enfin, c'est pas qu'on s'en prive consciemment, mais je me dis, mais ah, mais on a tellement de choses à faire, à explorer, ne serait-ce que, tu vois, des fois, je donne des exemples très, très bateaux, mais au moment de la douche, quand on met un vêtement, c'est des choses du quotidien, mais on s'en rend même plus compte parce qu'on est tellement dans nos têtes, il faut que ça aille vite, etc. Mais je me dis, et moi, j'ai envie de sentir le gel douche qui coule sur mon corps. J'aime sentir l'eau. Et bien sûr qu'on est prise, et moi aussi, dans le quotidien. Mais juste, tu prends 10 secondes, tu respires et tu te concentres sur ce qui se passe sur ta peau. Et je me dis, mais c'est tellement beau d'avoir eu ce cadeau de la nature. On a cet organe qui fait la frontière, qui nous permet de ressentir, nous émouvoir. Et elle demande qu'à être cultivée, tu vois. Enfin, moi, ça me. C'est trop beau.
J'adore. Sarah, c'est le moment où on doit terminer cette conversation. Dis-nous où on peut te suivre. C'est quoi tes plateformes préférées pour rester en contact?
Alors, mes plateformes préférées, je suis présente, j'ai envie de dire partout, mais vraiment pour avoir un bon sens de la plaisirologie, c'est Instagram, donc @amfauve. Je suis aussi très présente sur YouTube, donc où chaque semaine, je crée des contenus autour des relations, de la sexo, tout simplement du plaisir intime. J'ai un podcast également, le blog Amfauve. Ouais, TikTok pour le côté coulisses, lifestyle, ma vie un peu perso si ça vous intéresse. Et puis voilà, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. On va mettre tous les liens dans les notes de cet épisode et je te remercie infiniment d'être venu nous partager cet art, cette vision aussi du monde. Et j'espère qu'on aura la chance de se reparler.
J'espère aussi. Merci beaucoup, Tatiana.
Merci. Hey, t'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcasts, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.